Chacun chez soi, au moins jusqu'au 11 mai, date à laquelle les écoles, les collèges et les lycées rouvriraient progressivement. Comment passer le temps confiné? Et si vous avez moins de 18 ans, comment préparer votre oral de français? Pendant 4 semaines, à l'heure de la grande table, France Culture avec le ministère de l'Éducation nationale vous propose d'écouter dans la voix de grands comédiens les mots de grands écrivains. Et de réviser, lire ou relire ces œuvres de notre patrimoine littéraire, commenter et recontextualiser. Une programmation éclectique, hier Enfance de Nathalie Sarraute, demain Beaumarchais, Le mariage de Figaro, aujourd'hui Montaigne et les essais, lecture signée Jacques Gamblin.
Écoutez, révisez, Olivia Gesbert.
À la découverte d'un monde, mieux que personne, Montaigne, dans ses essais, va restituer le choc et l'ouverture que la découverte de l'Amérique va engendrer. À l'horizon, un nouveau continent et surtout l'extension de tous les possibles. Nous sommes au XVIe siècle, pour les Européens, l'heure est à la remise en question. Notre monde vient d'en trouver un autre, écrit Michel de Montaigne. Dans ce grand bouleversement, Montaigne retient surtout la rencontre avec l'autre, le fameux avec un grand A. La partie des essais qu'il consacre à ce nouveau monde s'intéresse moins aux richesses de ces terres inconnues qu'à leurs habitants. L'humaine condition, elle est au cœur du chapitre sur lequel nous nous penchons aujourd'hui, chapitre au titre provocateur des cannibales. Nous voilà avec Montaigne face à une altérité radicale, celle de ces peuples nus, féroces et anthropophages, comme les a qualifiés avant lui Hans Statten, un contemporain de Montaigne. Quelle humanité chez ces sauvages d'Amérique? Comment cette rencontre va amener l'auteur à repenser notre humanité? Au même moment, la foi dans le progrès et la modernité provoquent un essor extraordinaire des sciences, des techniques et de la création artistique. Figure de l'époque, qu'il incarne par sa sensibilité comme son dynamisme, Montaigne est l'auteur d'une pensée en mouvement. « Je ne peins pas l'être, je peins le passage », écrit-il. Ce mouvement est d'abord celui des essais, œuvre inclassable entre littérature et philosophie, où Montaigne fait dialoguer les idées, un exercice qu'il affectionne. Le plus fructueux et naturel exercice de notre esprit, écrit-il, c'est à mon gré la conférence, au sens ici de la discussion, du débat pour Montaigne. En effet, l'auteur entre en conversation avec lui-même, pour preuve les multiples ajouts, annotations et commentaires qu'il ne cesse d'apporter à ses écrits. Chaque nouvelle édition des essais est une œuvre profondément remaniée. Il dialogue aussi à coups de citations, de convocations avec les auteurs qu'il admire, et avec ses lecteurs, il fait discuter l'actualité avec une réflexion plus générale sur la nature humaine, met en perspective, compare, voire confronte des événements contemporains avec les autorités antiques. Montaigne pense le présent avec l'aide des anciens. Un besoin de dialogue permanent qu'il résume avec cette formule, il est essentiel de limer notre cervelle contre celle d'autrui. Des cannibales, pourquoi ce titre, alors que ce mot n'est plus employé au fil de l'essai? Auteur malicieux, derrière l'apparente objectivité de sa description, Montaigne, l'humaniste, joue avec nos attentes comme avec nos certitudes. De digression en digression, il suit un propos qui va à saut et à gambade, sans perdre le fil de sa réflexion sur l'humanité. Dans ce chapitre, Montaigne expose en détail l'acte anthropophage et en même temps, il nous met au défi d'accuser ces hommes de barbarie. Il modifie habilement les points de vue, décentre le regard. Au fil de ces lignes, les Indiens d'Amérique semblent nous tendre un miroir. « Regardez-vous, » disent-ils, « que voyez-vous? Et vous, qui êtes-vous ? » 6 mois par an en tournage, les 6 autres de l'année sur les planches, habituellement. Mais cette année, rien ne se passe comme prévu. La tournée de son dernier spectacle « Je parle à un homme qui ne tient pas en place » a été stoppée le mois dernier par l'épidémie. C'est donc aujourd'hui un comédien confiné qui lit pour vous cet extrait des essais de Montaigne, Jacques Gamblin.
Cet homme que j'avais était homme simple et grossier, ce qui est une condition propre à rendre véritable témoignage. Car les fines gens remarquent bien plus curieusement et plus de choses, mais ils les glosent. Et pour faire valoir leur interprétation et la persuader, ils ne se peuvent garder d'altérer un peu l'histoire. Ils ne vous représentent jamais les choses pures. Ils les inclinent et masquent selon le visage qu'ils leur ont vu. Et pour donner crédit à leur jugement et vous y attirer, ils prêtent volontiers de ce côté-là à la matière, l'allongent et l'amplifient. Où il faut un homme très fidèle, ou si simple qu'il n'ait pas de quoi bâtir et donner de la vraisemblance à des inventions fausses, et qui n'ait rien épousé. Le mien était tel. et outre cela, il m'a fait voir à diverses fois plusieurs matelots et marchands qu'il avait connus en ce voyage. Ainsi, je me contente de cette information sans m'enquérir de ce que les cosmographes en disent. Il nous faudrait des topographes qui nous fissent narration particulière des endroits où ils ont été. Mais pour avoir cet avantage sur nous d'avoir vu la Palestine, ils veulent jouir du privilège de nous conter nouvelles de tout le demeurant du monde. Je voudrais que chacun écrivît ce qu'il sait, et autant qu'il en sait, non en cela seulement, mais en tout autre sujet, car tel peut avoir quelque particulière science ou expérience de la nature d'une rivière ou d'une fontaine qui ne sait au reste que ce que chacun sait. Il entreprendra toutefois, pour faire courir ce petit lopin, d'écrire toute la physique. De ce vice sourdent plusieurs grandes incommodités. Or je trouve, pour revenir à mon propos, qu'il n'y a rien de barbare et de sauvage en cette nation à ce qu'on m'en a rapporté, sinon que chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage. Comme de vrai, nous n'avons autre mire de la vérité et de la raison que l'exemple et idée des opinions et usances du pays où nous sommes. Là est toujours la parfaite religion, la parfaite police, parfait et accompli usage de toutes choses. Ils sont sauvages, de même que nous appelons sauvages les fruits que nature de soi et de son progrès ordinaire a produits, là où, à la vérité, ce sont ceux que nous avons altérés par notre artifice et détournés de l'ordre commun, que nous devrions appeler plutôt sauvages. En cela sont vives et vigoureuses les vraies et plus utiles et naturelles vertus et propriétés, lesquelles nous avons abâtardies en ceci, les accommodant au plaisir de notre goût corrompu. Et si pourtant la saveur même et délicatesse se trouve à notre goût même excellentes à l'envie des nôtres en divers fruits de ces contrées-là, sans culture, ce n'est pas raison que l'art gagne le point d'honneur sur notre grande et puissante mère nature. Nous avons tant rechargé la beauté et richesse de ces ouvrages par nos inventions que nous l'avons du tout étouffé. Si est-ce que partout où sa pureté reluit, elle fait une merveilleuse honte à nos vaines et frivoles entreprises. Et veniunt ederae sponte sua medius, surgit et in solis formosior arbutus antris, et volucres nulla dulcius arte canunt. Le lierre vient mieux de lui-même, l'arbousier croît plus beau dans les grottes solitaires, et les oiseaux ont un chant plus mélodieux sans travail. Properse élégie. Tous nos efforts ne peuvent seulement arriver à représenter le nid du moindre oiselet, sa contexture, sa beauté et l'utilité de son usage, non pas la tissure de la chétive araignée. Toutes choses, dit Platon, sont produites ou par la nature, ou par la fortune, ou par l'art. Les plus grandes et plus belles par l'une ou l'autre des deux premières, les moindres et imparfaites par la dernière. Ces nations me semblent donc ainsi barbares pour avoir reçu fort peu de façons de l'esprit humain et être encore fort voisines de leur naïveté originelle. Les lois naturelles leur commandent encore, fort peu abâtardies par les nôtres. Mais c'est en telle pureté qu'il me prend quelquefois déplaisir de quoi la connaissance n'en soit pas venue plus tôt, du temps qu'il y avait des hommes qui en eussent su mieux juger que nous. Il me déplaît que Lycurgue et Platon ne l'aient pas eu, car il me semble que ce que nous voyons par expérience en ces nations-là surpasse non seulement toutes les peintures de quoi la poésie a embelli l'âge doré et toutes ses inventions à feindre une heureuse condition d'homme, mais encore la conception et le désir même de la philosophie. Ils n'ont pu imaginer une naïveté si pure et simple, comme nous la voyons par expérience, ni n'ont pu croire que notre société se pût maintenir avec si peu d'artifices et de soudure humaine. C'est une nation, dirais-je à Platon, en laquelle il n'y a aucune espèce de trafic. Nulle connaissance de l'être, nulle science de nombre, nul nom de magistrat ni de supériorité politique. Nul usage de service, de richesse ou de pauvreté, nul contrat, nulle succession, nul partage, nulles occupations coisives, nul respect de parenté que commun, nul vêtement, nulle agriculture, nul métal, nul usage de vin ou de blé, Les paroles même qui signifient le mensonge, la trahison, la dissimulation, l'avarice, l'envie, la détraction, le pardon sont inouïs. Combien trouverait-il la République qu'il a imaginée éloignée de cette perfection ? Os natura modos primum dedit, voilà les premières lois qu'offrit la nature. Virgile, Géorgique. Au demeurant, ils vivent en une contrée de pays très plaisante et bien tempérée, de façon qu'à ce que m'ont dit mes témoins, il est rare d'y voir un homme malade, et m'ont assuré n'en y avoir vu aucun tremblant, chassieux, édenté ou courbé de vieillesse. Ils sont assis le long de la mer et fermés du côté de la terre de grandes et hautes montagnes, ayant entre deux 100 lieues ou environ d'étendue en lard. Ils ont grande abondance de poissons et de chair, qui n'ont aucune ressemblance aux nôtres, et ils les mangent sans autre artifice que de les cuire. Le premier qui y mena un cheval, quoiqu'il les eût pratiqués à plusieurs autres voyages, leur fit tant d'horreur en cette assiette qu'ils le tuèrent à coups de trait avant de le pouvoir reconnaître. Leurs bâtiments sont fort longs et capables de 200 ou 300 armes, étoffés d'écorces de grands arbres, tenant à terre par un bout et se soutenant et appuyant l'un contre l'autre par le faîte, à la mode d'aucune de nos granges, desquelles la couverture pend jusqu'à terre et sert de flanc. Ils ont du bois si dur qu'ils en coupent et en font leurs épées et des grilles à cuire leur viande. Leurs lits sont d'un tissu de coton suspendu contre le toit, comme ceux de nos navires, à chacun le sien, car les femmes couchent à part des maris. Ils se lèvent avec le soleil et mangent soudain après s'être levés pour toute la journée, car ils ne font autre repas que celui-là. Ils ne boivent pas l'or, comme Suidas dit de quelques autres peuples d'Orient qui buvaient hors du manger. Ils boivent à plusieurs fois sur jour et d'autant. Leur breuvage est fait de quelques racines et de la couleur de nos vins clairés. Ils ne le boivent que tiède. Ce breuvage ne se conserve que 2 ou 3 jours. Il a le goût un peu piquant, nullement fumeux, salutaire à l'estomac et laxatif à ceux qui ne l'ont accoutumé. C'est une boisson très agréable à qui y est dû. Au lieu du pain, ils usent d'une certaine matière blanche, comme du coriandre confit. J'en ai tâté, le goût en est doux et un peu fade. Toute la journée se passe à danser. Les plus jeunes vont à la chasse des bêtes à tous des arcs. Une partie des femmes s'amuse cependant à chauffer leur breuvage, ce qui est leur principal office. Il y a quelqu'un des vieillards qui, le matin, avant qu'ils se mettent à manger, prêche en commun toute la grangée en se promenant d'un bout à l'autre et redisant une même clause à plusieurs fois jusqu'à ce qu'il ait achevé le tour, car ce sont bâtiments qui ont bien 100 pas de longueur. Il ne leur recommande que 2 choses, la vaillance contre les ennemis et l'amitié à leurs femmes. Il ne faille jamais de remarquer cette obligation pour leur refrain, que ce sont elles qui leur maintiennent leur boisson tiède et assaisonnée. Ils se voient en plusieurs lieux, et entre autres chez moi, la forme de leurs lits, de leurs cordons, de leurs épées et bracelets de bois, de quoi ils couvrent leurs poignets au combat, et des grandes cannes ouvertes par un bout, par le son desquelles ils soutiennent la cadence en leur danse. Ils sont ras partout, et se font le poil beaucoup plus nettement que nous, sans autre rasoir que de bois ou de pierre. Ils croient les âmes éternelles, et celles qui ont bien mérité des dieux, être logées à l'endroit du ciel où le soleil se lève, les maudites du côté de l'Occident. Ils ont je ne sais quels prêtres et prophètes qui se présentent bien rarement au peuple, ayant leur demeure aux montagnes. À leur arrivée, il se fait une grande fête et assemblée solennelle de plusieurs villages. Chaque grange, comme je l'ai décrite, fait un village, et elles sont environ à 1 lieue française l'une de l'autre. Ce prophète parle à eux en public, les exhortant à la vertu et à leur devoir. Mais toute leur science éthique ne contient que ces 2 articles de la résolution à la guerre et affection à leurs femmes. Celui-ci leur pronostique les choses à venir et les événements qu'ils doivent espérer de leurs entreprises. Il les achemine ou détourne de la guerre. Mais c'est par tel si que où il faut à bien deviner, et s'il leur advient autrement qu'il ne leur a prédit, il est haché en 1000 pièces s'il l'attrape et condamné pour faux prophète. À cette cause, celui qui s'est une fois mécompté on ne le voit plus. C'est don de Dieu que la divination. Voilà pourquoi ce devrait être une imposture punissable d'en abuser. Entre les sites, quand les devins avaient failli de rencontre, on les couchait, enforgés de pieds et de mains, sur des chariots pleins de bruyères tirés par des bœufs, en quoi on les faisait brûler. Ceux qui manient les choses sujettes à la conduite de l'humaine suffisance sont excusables d'y faire ce qu'ils peuvent. Mais ces autres qui nous viennent pipant des assurances d'une faculté extraordinaire qui est hors de notre connaissance, ne faut-il pas les punir de ce qu'ils ne maintiennent l'effet de leurs promesses et de la témérité de leur imposture ? Ils ont leur guerre contre les nations qui sont au-delà de leurs montagnes, plus avant en la terre ferme, auxquelles ils vont tout nus, n'ayant autres armes que des arcs ou des épées de bois appointées par un bout à la mode des langues de nos épieux. Ces choses émerveillables que de la fermeté de leurs combats qui ne finissent jamais que par meurtre et effusion de sang, car de route et d'effroi, ils ne savent pas ce que c'est. Chacun rapporte pour son trophée la tête de l'ennemi qu'il a tué et l'attache à l'entrée de son logis. Après avoir longtemps bien traité leurs prisonniers et de toutes les commodités dont ils se peuvent aviser, celui qui en est le maître fait une grande assemblée de ses connaissants. Il attache une corde à l'un des bras du prisonnier, par le bout de laquelle il le tient, éloigné de quelques pas, de peur d'en être offensé, et donne au plus cher de ses amis l'autre bras à tenir de même. Et eux deux, en présence de toute l'assemblée, l'assomment à coups d'épée. Cela fait, ils le rôtissent et en mangent en commun, et en envoient des lopins à ceux de leurs amis qui sont absents. Ce n'est pas comme on pense pour s'en nourrir, ainsi que faisaient anciennement les Scythes. C'est pour représenter une extrême vengeance. Et qu'il soit ainsi, ayant aperçu que les Portugais, qui s'étaient ralliés à leurs adversaires, usaient d'une autre sorte de mort contre eux quand ils les prenaient, qui était de les enterrer jusqu'à la ceinture, et tirèrent au demeurant du corps force coups de trait, et les pendre après, ils pensèrent que ces gens ici de l'autre monde, comme ceux qui avaient semé la connaissance de beaucoup de vices parmi le voisinage, et qui étaient beaucoup plus grands maîtres qu'eux en toutes sortes de malices, ne prenaient pas sans occasion cette sorte de vengeance, et qu'elle devait être plus aigre que la leur, dont ils commencèrent de quitter leur façon ancienne pour suivre celle-ci. Je ne suis pas mari que nous remarquions l'horreur barbaresque qu'il y a en une telle action. Mais oui, bien de quoi, jugeant à point de leur faute, nous soyons si aveuglés aux nôtres. Je pense qu'il y a plus de barbarie à manger à un homme vivant qu'à le manger mort. À déchirer par tourment et par géhenne un corps encore plein de sentiments, le faire rôtir par le menu, le faire mordre et meurtrir aux chiens et aux pourceaux, comme nous l'avons non seulement lu, mais vu de fraîche mémoire, non entre des ennemis anciens, mais entre des voisins et concitoyens, et qui pisaient sous prétexte de piété et de religion, que de le rôtir et manger après qu'il ait trépassé. Chrysippe et Zénon, chef de la secte stoïque, ont bien pensé qu'il n'y avait aucun mal de se servir de notre charogne à quoi que ce fût pour notre besoin et d'en tirer de la nourriture, comme nos ancêtres étant assiégés par César en la ville d'Alésia, se résolurent de soutenir la fin de ce siège par les corps de vieillards, des femmes et autres personnes inutiles au combat. Vascones fama est alimentis talibus usi produxere animas. Les Gascons, dit-on, prolongèrent leur vie avec pareils aliments. Juvénal, Satire. Et les médecins ne craignent pas de s'en servir à toutes sortes d'usages pour notre santé, soit pour l'appliquer au-dedans ou au-dehors. Mais il ne se trouva jamais aucune opinion si déréglée qui excusa la trahison, la déloyauté, la tyrannie, la cruauté, qui sont nos fautes ordinaires. Nous les pouvons donc bien appeler barbares, eu égard aux règles de la raison, mais non pas eu égard à nous, qui les surpassons en toutes sortes de barbaries. Leur guerre est toute noble et généreuse, et a autant d'excuses et de beauté que cette maladie humaine en peut recevoir. Elle n'a autre fondement parmi eux que la seule jalousie de la vertu. Ils ne sont pas en débat de la conquête de nouvelles terres, car ils jouissent encore de cette huberté naturelle qui les fournit sans travail et sans peine de toutes choses nécessaires, en telle abondance qu'ils n'ont que faire d'agrandir leurs limites. ils sont encore en cet heureux point de ne désirer qu'autant que leurs nécessités naturelles leur ordonnent. Tout ce qui est au-delà est superflu pour eux. Ils s'entrappellent généralement, ceux de même âge, frères, enfants ceux qui sont au-dessous, et les vieillards sont pères à tous les autres. Ceux-ci laissent à leurs héritiers, en commun, cette pleine possession de biens par indivis, sans autre titre que celui tout pur que nature donne à ses créatures les produisant au monde. Si leurs voisins passent les montagnes pour les venir assaillir et qu'ils emportent la victoire sur eux, l'acquis du victorieux, c'est la gloire et l'avantage d'être demeuré maître en valeur et en vertu. Car autrement, ils n'ont que faire des biens des vaincus et s'en retournent à leur pays où ils n'ont faute d'aucune chose nécessaire, ni faute encore de cette grande partie de savoir heureusement jouir de leurs conditions et s'en contenter.
Des cannibales, lecture signée Jacques Gamblin. Et maintenant, ce que ce texte nous dit de son auteur et de l'époque, selon les professeurs et inspecteurs généraux de l'éducation nationale qui l'ont sélectionné pour vous. L'extrait s'ouvre sur un éloge de la simplicité. Montaigne rend hommage à son serviteur, homme simple et grossier, écrit-il, mais qui est resté plus de 10 ans dans cet autre monde et peut en témoigner sans broder. En plus de ce témoignage, Montaigne a recherché celui de plusieurs matelots et marchands, des hommes de terrain, contrairement aux hommes de lettres. Le crédit qu'il accorde à l'expérience directe, au vécu, est égal à sa méfiance des cosmographes qui prétendent détenir un savoir universel. Montaigne appelle à s'en tenir aux faits vrais et à privilégier la connaissance directe, d'où sa préférence pour les topographes qui se contentent, dit Montaigne, d'une narration particulière des endroits où ils ont été. Je voudrais que chacun écrivît ce qu'il sait et autant qu'il sait. La formule est limpide. Parmi les sources de Montaigne, le voyageur Jean de Léry, l'auteur de l'histoire d'un voyage fait en la terre du Brésil, véritable best-seller de la Renaissance. Son goût de l'authentique a presque valeur de manifeste littéraire chez Montaigne, qui revendique un style spontané. Le parler que j'aime, c'est un parler simple et naïf. Si Montaigne refuse les artifices rhétoriques, il veut aussi retourner les discours sur la prétendue barbarie de ses peuples. Ils sont sauvages, de même que nous appelons sauvages les fruits que nature de soi et de son progrès ordinaire a produits. Avec Montaigne, la dite sauvagerie des Indiens d'Amérique n'est pas synonyme de férocité, elle est au contraire la marque d'une humanité plus pure et simple, pour reprendre ses mots. Il met en avant les vraies vertus naturelles de ces sociétés qu'il oppose à nos sociétés, altérées, je cite, par l'artifice, voire abâtardies et corrompues. La culture dont nous nous glorifions n'est rien à côté de notre grande et puissante mère nature, écrit Montaigne. Éloge de la simplicité, exaltation du naturel et de la naïveté originelle, Montaigne prépare Rousseau. Quand Montaigne décrit le quotidien des Indiens d'Amérique, cette description prend la forme d'une succession de négations où l'auteur énumère tout ce qu'ils ne sont pas ou ne font pas. C'est une nation, dirais-je à Platon, en laquelle il n'y a aucune espèce de trafic. Nulle connaissance de lettres, nulle science de nombre, nul nom de magistrat ni de supériorité politique, nul usage de service, de richesse ou de pauvreté, nul contrat, nulle succession, etc., etc. Certes, les Indiens manquent de pain, de culture, d'institutions, mais nous, peut-on lire en creux, en avons-nous vraiment besoin ? Le mensonge, la trahison, l'avarice, le pardon, ce qui manque aussi aux Indiens, ce sont les mots pour le dire. Mais est-ce un hasard si le vocabulaire de la tromperie, de la déloyauté est inconnu des Indiens et s'il est si développé chez nous ? Pour Montaigne, les mots en disent long. Le fait que les Indiens se désignent entre eux comme moitié les uns des autres suffit à exprimer leur conception égalitaire du rapport à l'autre. Les Indiens d'Amérique dont parle ici Montaigne, les dits cannibales, sont en réalité les Indiens tupis rencontrés par les colons le long du littoral brésilien. Montaigne est fasciné par ce degré minimal de soudure humaine que présente leur société, ce lien social réduit à sa plus simple et plus pure expression. Qu'il voit comme un aboutissement, le désir même de la philosophie, la société parfaite rêvée par Platon, qui, s'il pouvait les voir, trouverait la République qu'il a imaginée bien éloignée de cette perfection, écrit Montaigne. L'auteur présente de façon très précise leur milieu, leur habitat et leur mode de vie au quotidien. Il en ressort l'image d'une vie simple où toute la journée se passe à danser et qui s'organise autour de deux valeurs, la vaillance contre les ennemis et l'amitié à leur femme, autrement dit l'harmonie familiale et l'ardeur au combat. Les Indiens croient les âmes immortelles et estiment que la justice divine récompense les bons et punit les mauvais dans l'au-delà. Les religieux n'ont aucun droit à l'erreur, car leur autorité supérieure les oblige. Et l'art de la guerre, Montaigne l'aborde aussi. Si cette maladie humaine qu'est la guerre existe aussi chez eux, Montaigne insiste sur l'éthique dont ils font preuve. « Leur guerre est toute noble et généreuse », écrit l'essayiste. « Elle est parfaitement désintéressée. Ils ne sont pas en débat de la conquête de nouvelles terres. » La présentation des guerres indiennes est aussi ce qui permet à Montaigne de justifier le titre de son essai « Des cannibales ». Montaigne rapporte ici les détails de la mise à mort du prisonnier et insiste sur sa signification. Ce n'est pas comme on pense pour s'en nourrir, c'est pour représenter une extrême vengeance. L'acte cannibale est ainsi à considérer comme partie prenante d'un code de l'honneur. D'autant que les guerres des Indiens n'ont lieu qu'entre des ennemis anciens, les opposants aux nations qui sont au-delà de leurs montagnes. Alors que chez nous, les guerres de religion ont montré qu'on était capable de s'entretuer entre voisins et concitoyens, et en plus sous le mauvais prétexte de piété et de religion. Pour conclure, écrit Montaigne, nous les pouvons donc bien appeler barbares, eu égard aux règles de la raison, mais non pas eu égard à nous qui les surpassons en toutes sortes de barbaries. Tout, décidément, n'est question que de point de vue chez Montaigne. Sa leçon est à méditer. Chaque homme porte en lui la forme entière de l'humaine condition, écrit-il, mais à sa façon, c'est-à-dire toujours relative. Penser les autres suppose d'abord se penser soi-même, ou plutôt penser contre soi-même. Et maintenant, tous à vos livres. À période spéciale, émission spéciale, à l'heure de la grande table, écoutez, révisez, une émission produite par France Culture avec le ministère de l'Éducation nationale. Un grand merci à Anne Simzac, à Patrick Laudet et Géraldine Méret qui ont travaillé sur l'analyse du jour. Lecture coordonnée par Blandine Masson, réalisée par Sophie Haute-Picon, avec Bastien Varigo à la technique. Mise en onde, Mydia Portis-Guérin. Merci à Laura Dutèche-Pérez qui nourrit le site d'informations précieuses. Sur franceculture.fr, vous pouvez aussi réécouter et vous abonner au podcast de cette émission. Très bel après-midi à tous sur France Culture et à demain.